Docteur Marquis, bonjour.
Bonjour.
Ben, docteur Marquis, je vous pose la question directement. Est-ce que votre hôpital, les hôpitaux de Montréal en général, tiennent le coup en ce moment?
Oui, oui. Pour le Québec, là, pour la région de Montréal, la deuxième vague est tout à fait présente, mais le pic d'admission est beaucoup moins élevé. Donc, hein, tout ce qu'on répétait à tout le monde, qu'il fallait aplanir la courbe, à Montréal, c'est ce qu'on fait. La courbe est pas complètement plate. On a des cas, mais on n'est pas du tout dans les volumes de la première vague.
Bon, ça, c'est rassurant. Mais j'imagine, François Marquis, que vous avez vu hier la conférence de presse, notamment le maire de Québec, le maire de Lévis, extrêmement préoccupé de la situation du système de santé, des hôpitaux, des lits disponibles dans la région de la capitale nationale, alors que pourtant, en mars, et une bonne partie de la suite, une partie de l'été, il n'y avait pas de problème dans la région de Québec.
Oui, et ça, c'est très, très, très facile à expliquer. C'est que notre virus préféré est un virus d'opportunité. Et quand il s'est fait un peu de plaisir à Montréal, il a commencé par attaquer tous les gens les plus vulnérables. Ces gens-là, le virus ne les avait pas vus à Québec. Le virus n'était pas rendu à Québec, mais ils sont présents, ces gens vulnérables-là, à Québec. Ils existent toujours. Et ça, c'était la raison pour qu'on disait, si vous n'avez pas été touché par la première vague, c'est pas que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, c'est que le virus vous a pas vu. Et ça, toute la grande région de Québec avait été heureusement épargnée, mais malheureusement vient de se faire trouver par le virus. C'est qu'eux, ils vivent en réalité leur première vague à eux autres. C'est la deuxième à Montréal. Mais c'est la première à Québec, parce que la première vague a quasiment passé par-dessus Québec sans l'avoir.
C'est drôle, François Marquis, parce que ça ressemble à la situation dans plusieurs pays d'Europe. Prenons la France. La France a été durement... Mais l'Italie, évidemment, a été le premier touché, premier pays européen, et c'était dans des grands centres. En Italie, c'était dans le nord, dans la région de Milan, et puis en France, Paris qui avait été durement touché, mais le reste, la Provence avait été épargnée. Mais voilà que, en ce moment même, en France, c'est partout, partout, même des régions qui avaient été épargnées sont maintenant touchées.
Oui, et c'est ça qui est le plus problématique, c'est que la plupart de ces régions-là ont accès à des bons soins de santé, mais ont accès à des soins de santé proportionnels à la demande habituelle. L'avantage de grands centres, c'est qu'on dispose d'énormément de lits et de lits très équipés, parce qu'habituellement, dans l'histoire normale des choses, quand un patient va pas bien en région, on le transfère vers un grand centre. Or, là, quand c'est des petits centres un peu éparpillés partout sur le territoire qui sont touchés, on arrive vite au maximum de leur capacité. Je veux dire, un hôpital peut être extrêmement performant, mais s'il n'a que 5 lits de soins intensifs, il n'a que 5 lits de soins intensifs pour desservir sa population. Et c'est là que, rapidement, on atteint les maximums. Bon, Québec, la grande région de Québec, a beaucoup plus que 5 lits de soins intensifs. Mais l'autre élément, c'est aussi l'élément pratique. On a beau lire sur une pandémie, on a beau se préparer dans notre tête, on a beau faire des exercices de feu, quand la pandémie arrive, il y a tellement de détails, il y a tellement de choses qu'il faut roder dans les premiers jours ou les premières semaines, qu'il y a naturellement des petits endroits où ça va accrocher et il va y avoir des éclosions dans les hôpitaux. On n'est pas plus fin que les autres, là, on en a eu à Montréal des éclosions dans les hôpitaux, mais on a pris bonne note de ces mécanismes-là et on a beau avoir essayé de transposer nos bons coups à Québec, il faut l'avoir essayé. On le dit, il faut forger pour devenir forgeron. Ben, il faut gérer de la pandémie pour être bon. Ouais. Et je pense que Québec se trouve à l'endroit où Montréal était au printemps et qui n'est pas un endroit confortable, c'est tout à fait vrai.
Ouais. Alors, vous avez parlé de la région de Montréal. Éclosion, dit-on, à Santa Cabrini, un hôpital montréalais, évidemment. Alors, évidemment, la partie est loin d'être gagnée, mais j'aimerais que vous nous expliquiez, docteur Marquis, pourquoi il est si important de ne pas se rendre à l'hôpital ou, enfin, engorger un hôpital parce qu'on a été négligent dans la façon de se protéger dans la COVID-19 et comment cela peut enlever la place à quelqu'un qui en a absolument besoin, d'une présence et de soins hospitaliers.
Ben, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des gens qui vont attraper la COVID-19, ils s'en sortent très bien à la maison. Donc, étape numéro un, ne pas devenir un vecteur de contagion. C'est qu'à moins qu'on arrache, on ne va pas à l'hôpital, parce que si c'est juste pour se faire dire de prendre des Tylenol puis de rester tranquille, ça ne sert à rien, un, de transporter son virus, parce que pour se rendre à l'hôpital, il faut se déplacer, que ce soit à pied, transport en commun, ambulance, donc c'est tout, on va être en contact avec des gens. Une fois rendu à l'urgence, mais le problème est qu'on est un vecteur, on répand du virus. Donc ça, c'est la raison simple. La deuxième raison, c'est que si on prend une place dans l'hôpital, qu'on n'a pas besoin, et si on a besoin de la place, on y va, c'est parfait, on va s'occuper de vous, tout est beau, tout est correct. Mais c'est qu'il y a un nombre de lits limités dans un hôpital, et quand on arrive avec des patients qui sont COVID, un patient COVID prend un peu plus de ressources qu'un patient normal parce que on peut pas les cohorter de la même façon. Il y a les isolements, il y a toutes ces choses-là. Et donc, ces patients-là prennent un peu plus de ressources. Je le répète, s'ils en ont besoin, on est là pour ça. Mais si c'est quelque chose qui pourrait se régler à la maison, mais comme une ressource, qu'elle soit personnelle, infirmière, inhalothérapeute, ou que ça soit la chambre, cette personne-là, si elle prend une chambre qui est pas nécessaire, le temps qu'on fasse le tour de l'histoire, ben c'est peut-être une chirurgie élective qui va être annulée. C'est peut-être une infirmière qui va être prise pour faire un temps supplémentaire. C'est que c'est ces choses-là qui tranquillement minent les hôpitaux et font en sorte que si les gens qui le peuvent restent à la maison, ça donne un coup de main à tout le monde. C'est un peu ça le principe général.
Docteur Marquis, j'aimerais qu'on parle maintenant de l'état des troupes. Parce que c'est une réalité aussi. Non seulement est-ce qu'on doit composer dans certaines régions comme Québec, la capitale nationale, c'est un cas de transmission qu'on n'avait pas vu au printemps dernier, mais on insiste beaucoup auprès des autorités de la santé sur la santé des travailleurs, des médecins, des infirmières, des travailleurs de première ligne. Est-ce que vous sentez une sorte d'épuisement après 8 mois?
Ben, il y a effectivement une forme d'épuisement. Il y a une écœurantite, hein, comme on dit en bon québécois. Ça mine le moral parce que, comme tout le monde, les gens de la santé qui sont pris là-dedans tous les jours, eux aussi sont pris avec toutes les limites à imposer, là, le fait de pas pouvoir se regrouper, de voir la famille, de voir les amis, qu'on rajoute à ça que dans le système, quand on travaille dans le système de santé, un peu tout le monde pense qu'on a la peste. Là, c'est que ça, c'est... On n'est pas exactement les gens les plus bienvenus dans notre entourage. Si on ajoute à ça l'incertitude, et je pense qu'une des choses qui fait le plus mal, c'est l'incertitude. C'est quand tu rentres dans un chiffre, oui, tu veux faire ton travail, mais quand tu sais pas un peu à quelle heure tu vas sortir ou que tu sais pas c'est quoi les conditions, pendant combien de temps tu vas être assigné où, est-ce que tu vas être obligé de changer de lieu de travail... Même si ça n'arrive pas, le simple fait que tu sais que ça peut arriver est une source de stress.
Bien sûr.
Et quand tu vois aussi les gens autour de toi, certaines prennent des décisions qui peuvent être totalement motivées, mais qui font qu'ils quittent ton équipe, la personne qui reste en arrière, c'est toujours un dur coup pour elle. Elle finit pour se dire « Pourquoi moi? » Et des fois, ce qu'on a, c'est un peu des pactes de départ où des gens vont dire « Si toi, tu pars, moi, je vais partir avec toi. » Ce qui fait qu'en sorte, on peut perdre plus de monde d'un coup. Et ça, à un moment donné, c'est une roue qui est très dure sur le moral parce qu'on voit les gens qui un peu qui abandonnent le bateau, puis on se dit, est-ce que je vais être le champion qui va rester tout seul sur le bateau? Ça fait mal. Là.
J'ai parlé à des infirmières cette semaine, Dr. Marquis. Vous touchez un point qu'elles m'ont exprimé. Elles ont dit, nous avons besoin entre nous, le personnel hospitalier, d'une solidarité. Plus que jamais, on s'en va vers une période difficile, là, l'automne, l'hiver, plus que jamais, et on voit des collègues de travail disparaître et d'autres qui s'amènent à l'inquiétude, d'ailleurs, de l'arrivée d'autres, parce qu'on a justement constaté lors de la première vague qu'il ne fallait pas qu'il y ait un mouvement trop important de personnel qui vienne de l'extérieur et qui reparte et qui revienne.
Bien, ça, c'est une chose. Quand quelqu'un se joint à l'équipe, idéalement, c'est qu'il faut que ça soit dans un seul sens. C'est-à-dire, on sait très bien qu'une des erreurs, c'est d'envoyer une personne flottante sur 8 hôpitaux ou dans plein d'unités différentes. Là. Ça, c'est acquis. On a tous compris ça. Mais il y a aussi la bonne vieille chose qui est un réflexe humain. C'est que quand quelqu'un arrive dans une nouvelle équipe, ben c'est le petit ou la petite nouvelle. Et ben on s'inquiète, est-ce que cette personne-là est aussi performante que les autres? Est-ce que ça va être un bon joueur d'équipe? Et des fois, même, on a paradoxalement le réflexe où on veut offrir à une équipe des renforts et qu'ils nous disent « Ah, pas sûr, nous on se connaît bien, mais je suis pas sûr qu'on veut des nouveaux. » Mais là, à un moment donné, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit. Là, quand les gens sont prêts à venir nous aider, on est dans une situation où il faut aussi tendre la main. On peut pas être en petite boule dans un coin en pleurant qu'on est tout seul, puis que quand il y a des gens qui viennent nous offrir de l'aide, on dit « Ah, non, toi, ça marchera pas.
Ouais. »
Tant que les gens ont les compétences, puis on doit s'assurer de ça, mais il faut, nous aussi, dans une équipe fonctionnelle, être prêts à accepter cette aide-là. T'sais, au printemps, nous, dans notre équipe médicale, on a accepté des chirurgiens, on a accepté des gens qui sont venus donner un coup de main aux soins intensifs pour lesquels c'est pas leur milieu naturel. Oui, on a fait plein de blagues là-dessus, puis ça a fait plein de blagues dans l'hôpital, mais en bout de ligne, on est extrêmement heureux qu'ils soient venus. Ils sont venus nous donner un coup de main, anesthésistes, chirurgiens. Ça a été un plus. Est-ce que c'était naturel de voir des chirurgiens et des anesthésistes tourner les soins intensifs? Non. Est-ce qu'on s'est adapté facilement? Et ça, en bout de ligne, tout le monde doit apprendre à faire ça et accepter peut-être des solutions qui sont exceptionnelles parce qu'on vit dans des moments exceptionnels, mais quand on offre de l'aide, je pense qu'il faut faire l'effort que d'accepter cette aide-là et d'essayer de l'utiliser à son meilleur, même si c'est quelqu'un qui vient d'un autre milieu qui n'est pas exactement le nôtre. Je pense que la plupart des gens peuvent faire preuve de solidarité, mais il faut aussi les accepter.
Docteur François Marquis, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir.
Ça fait plaisir. Au revoir.